La ville des affaires. Et par un matin pluvieux, un mardi, après mon entraînement à exclusive, je m'arrête à l'appartement de Paul Owen, dans l'Upper East Side. 161 jours se sont écoulés depuis la nuit que j'ai passée là, avec les deux escortes. Dans aucun des quatre journaux de la ville, il n'a été question de cadavres découverts, ni dans les nouvelles locales. Pas l'ombre d'une rumeur à ce sujet. J'ai été jusqu'à demander aux gens, les filles avec qui je sortais, des relations de travail, au cours des dîners ou dans le hall de Pierce & Pierce, s'ils avaient par hasard entendu parler de deux prostituées mutilées retrouvées dans l'appartement de Paul Owen. Mais comme dans un film, personne n'avait entendu parler de rien. Personne ne voyait ce dont je voulais parler. Il y a certes d'autres sujets de préoccupation, la quantité scandaleuse de laxatif et de speed avec laquelle on coupe la cocaïne à Manhattan à présent, l'Asie dans les années 90, la quasi-impossibilité d'obtenir une réservation pour 8 heures au PR, le nouveau restaurant de Tony Marcus sur Liberty Island, le crack. Ce que je veux dire en somme, c'est qu'apparemment on n'a pas trouvé de cadavre. Pour autant que je le sache, Kimball aussi est parti s'installer à Londres. Comme je sors du taxi, l'immeuble m'apparaît différent. Je ne sais pourquoi. Je possède toujours les clés que j'ai volées à Owen la nuit où je l'ai tué, et je les sors pour ouvrir la porte du hall. Mais elles n'entrent plus dans la serrure et refusent de fonctionner. En revanche, arrive un portier en uniforme qui n'était pas là il y a 6 mois. Il m'ouvre la porte, s'excusant d'avoir été si long. Je reste là, debout sous la pluie, perplexe, et il me prie d'entrer, me demandant d'une voix joviale avec un fort accent irlandais. « Alors, vous entrez ou vous restez dehors? Vous allez vous faire tremper ?» Je pénètre dans le hall, mon parapluie sous le bras, fourrant au fond de ma poche le masque de chirurgie que j'ai emporté pour parer à l'odeur. Le Walkman à la main, je réfléchis, cherchant quoi dire, comment le formuler. « Eh bien, que puis-je faire pour vous, monsieur ?» demande-t-il. Je cale. Silence gênant, interminable. Puis déclare « 14A ». Tout simplement. Il me détaille soigneusement du regard avant de consulter son registre, puis avec un large sourire, coche quelque chose. « Ah oui, bien sûr. Mrs. Wolf est déjà là-haut. » « Mrs. Wolf ?» fais-je, souriant faiblement. « Oui, c'est l'agent immobilier, » dit-il, levant les yeux vers moi. « Vous avez bien rendez-vous, n'est-ce pas ?» Tandis que monte l'ascenseur, le liftier, encore une nouveauté, garde les yeux rivés sur le sol. Je tente de me rappeler le trajet effectué cette nuit-là et durant toute la semaine, sachant pertinemment que je ne suis jamais retourné à l'appartement après le meurtre des deux filles. Combien vaut l'appartement de Owen? Telle est la question qui taraude mon esprit, insistante, vibrante, et finit par s'y loger définitivement. Ce matin, le Patty Winter Show était consacré aux gens à qui on a ôté la moitié du cerveau. J'ai l'impression d'avoir de la glace dans la poitrine. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Je sors avec circonspection, me retourne pour les voir se refermer, puis me dirige vers l'appartement de Owen. J'entends des voix derrière la porte. Je m'appuie contre le mur et soupire, les clés à la main, sachant déjà que les serrures ont été changées. Comme je reste là, me demandant quoi faire, tremblant, le regard baissé sur mes mocassins noirs et blancs, à Testoni, la porte de l'appartement s'ouvre, me tirant d'un bref accès d'attendrissement sur moi-même. Un agent immobilier entre deux âges en sort, m'adresse un sourire, et demande, consultant son carnet, « Êtes-vous mon rendez-vous de 11 heures ?» Non, dis-je. Excusez-moi, dit-elle. Et elle s'éloigne sur le palier, se retournant une fois pour me regarder avec une expression étrange, avant de disparaître. Je plonge le regard dans l'appartement. Un jeune couple, 28 ou 29 ans, est en train de discuter au milieu du salon. Elle porte une veste de laine, un chemisier en soie et un pantalon de flanelle de laine Armani, des boucles d'oreilles en vermeil, et tient une bouteille d'Evian dans sa main gantée. Il porte une veste sport en tweed, un gilet en cachemire, une chemise en chambray et une cravate Paul Stewart, et tient au bras un trench coat de coton Agnès B. Derrière eux, l'appartement semble immaculé. Nouveau store vénitien. Le panneau en faux cuir de vache a disparu. Cependant, le mobilier, le revêtement mural, la table basse en verre, les chaises tonnaient, le canapé de cuir noir, tout semble intact. La télévision à écran large installée dans le salon et allumée en sourdine diffuse actuellement une publicité dans laquelle on peut voir une tache sortir d'une veste et s'adresser à la caméra. Mais cela ne me fait pas oublier les seins de Christie, la tête d'une des filles, le nez manquant et les oreilles arrachées à coups de dents. Et ces dents qui apparaissent là où j'avais déchiré la chair de ses mâchoires et de ses joues. Le flot de sang qui inondait l'appartement. La puanteur de la mort. Ma propre crainte d'avoir...
Puis-je vous aider ?
L'agent immobilier, Mrs. Wolf, je présume, fait irruption. Elle a un visage fin, très anguleux, avec un gros nez. Un nez consternant, affreusement vrai. Une bouche lourdement soulignée de rouge et des yeux d'un bleu laiteux. Elle porte une veste en bouclette de laine, un chemisier en soie lavée, des chaussures, des boucles d'oreilles de... Je ne sais pas. Elle a peut-être moins de 40 ans. Je suis toujours appuyé au mur, observant le couple qui s'éloigne vers la chambre, abandonnant le salon. Je viens de remarquer les bouquets dans des vases de verre, des bouquets par dizaines, dans tous les coins de l'appartement. Je sens leur parfum de là où je me tiens, sur le palier. Mrs. Wolf jette un coup d'œil par-dessus son épaule, pour voir ce que je regarde ainsi, puis revient vers moi. Je cherche... Est-ce que Paul Owen n'habite pas... Elle demeure un long moment silencieuse. Non. Il n'habite pas ici, dit-elle enfin. Nouveau silence. Vous en êtes... Enfin, certaine ? Fais-je. Je ne comprends pas. Elle vient de remarquer quelque chose, et ses traits se contractent soudain. Ses yeux se rétrécissent, mais ne se ferment pas. Elle a vu le masque de chirurgien que je tiens serré d'une main droite. Elle inspire avec force, refusant de baisser les yeux. Décidément, tout cela me met très, très mal à l'aise. À la télé, encore une publicité. On voit un homme qui brandit un morceau de toast en disant à son épouse « Hé, t'as raison, cette margarine est réellement meilleure que de la merde !» L'épouse sourit. « Vous avez vu l'annonce dans le Times ?» demande-t-elle. « Non, enfin, si. Si, c'est cela, dans le Times. » Je m'interromps pour reprendre des forces. Le parfum des roses est étouffant. Il masque une autre odeur. Une odeur abominable. Mais est-ce que Paul Owen n'est plus le propriétaire ? Fais-je, réunissant tout mon courage. Elle reste silencieuse un long moment, avant d'avouer enfin « Il n'y avait pas d'annonce dans le Times. » Nous nous dévisageons pendant une éternité. Elle sait que je vais dire quelque chose, j'en suis certain. J'ai déjà vu cette expression sur le visage de quelqu'un. Dans une boîte ? Sur celui d'une victime ? Sur un écran de cinéma. Récemment? Ou bien l'ai-je déjà vue dans le miroir? Il me semble qu'une heure s'écoule avant que je puisse parler de nouveau. Mais c'est Je m'arrête. Mon cœur saute un battement, reprend son rythme. C'est son mobilier. Je laisse tomber mon parapluie et me penche aussitôt pour le ramasser. « Je crois que vous devriez partir, » dit-elle. « Je pense que... Je voudrais savoir ce qui s'est passé. » J'ai la nausée. Ma poitrine et mon dos se couvrent de sueur, trempés en une seconde, dirait-on. « Ne faites pas de difficultés, » dit-elle. Toutes les barrières, si jamais il en existait, semblent soudain amovibles, ôtées. Et ce sentiment que ce sont les autres qui créent mon destin ne me quittera pas de la journée. Ceci n'est pas un jeu, voudrais-je crier. Mais je ne parviens pas à reprendre mon souffle, bien qu'elle ne s'en aperçoive pas, à mon avis. Je détourne le visage. J'ai besoin de repos. Je ne sais quoi dire. Embarrassé, je feins de tendre la main, de toucher le bras de Mrs. Wolfe, puis suspends mon geste et porte ma main à ma poitrine que je n'arrive pas à sentir, pas même quand je desserre ma cravate. Ma main reste là, tremblant, sans que je puisse l'en empêcher. Je rougis, demeure muet. « Je pense que vous devriez partir, » dit-elle. Nous sommes sur le palier face à face. « Ne faites pas de difficultés, » dit-elle de nouveau calmement. Je demeure immobile quelques secondes encore, avant de me décider à reculer, levant les mains en un geste d'apaisement. « Ne revenez pas, » dit-elle. « Je ne reviendrai pas, » dis-je. « Ne vous inquiétez pas. » Le jeune couple apparaît sur le seuil de l'appartement. Mrs. Wolfe me suit des yeux jusqu'à la porte de l'ascenseur, me regarde appuyée sur le bouton. Dans l'ascenseur, le parfum des roses est accablant.